OK, c'est bon. OK, vous vous rappelez notre verset thème? On va le répéter encore. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Éphésiens 2. 19. On passe beaucoup de temps dans Éphésiens de ce temps-ci, et c'est bien. Éphésiens. Voici ce qu'on a vu à date dans la série depuis beaucoup de lunes. Hein? Dieu est le père de la famille. Sans Dieu, pas de famille, pas d'église. Et il faut être en relation avec ce père-là pour faire partie de sa famille, devenir un enfant de Dieu, et on n'est plus esclave. Dieu, ton papa, t'aime, te chérit. Il s'intéresse à tout ce qui se passe dans ta vie et dans sa famille, et cela inclut nos relations. Et comment on se traite dans la personne, dans la famille de Dieu, reflète sa personne et les valeurs qu'il a en tant que père de famille. Puis, on a vu les belles valeurs comme ceci, l'accueil, la persévérance, l'édification, l'humilité, l'unité, la collaboration. On est là-dedans depuis plusieurs mois, je dirais même. Maintenant, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens 4, au verset 19. Pendant que vous tournez, je vais vous raconter un peu là, ce qu'on va voir ce matin, ça a rapport encore avec nos relations dans l'Église, comment on interagit les uns avec les autres. Okay? Puis l'autre jour, j'ai fait un rêve, c'était un drôle de rêve. Qui ici connaît les mignons? Tu sais, Détestable-moi, là, le film Détestable-moi, là, les mignons. Ça me fait rire, hein? C'est incroyable, moi je trouve ça crevant. Alors, banana! Alors, moi, ils me font cramper parce que c'est vraiment comme une parodie, c'est comme une caricature de nous autres en tant qu'êtres humains, les mignons. Tu sais, puis j'ai fait un rêve. Puis là, on était tous comme des petits mignons qui courent partout à essayer de faire arriver leur propre volonté, puis qui sont full frustrés, full choqués parce que tout le monde se contrecarre et puis ils couraient partout, puis ils sont en colère. Puis là, tout d'un coup, Dieu nous regardait et en rigolant, disait, écoutez, arrêtez. Le plus important, c'est que je vous aime. Alors, pourquoi je vous raconte ce rêve-là? C'est parce que c'est en rapport avec ce qu'on va voir ce matin. Bon, Éphésiens 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur, dit Paul. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie, et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Prions. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, nous nous arrêtons devant toi, Seigneur, ce matin. Oui, avec reconnaissance, avec humilité, avec adoration, toi qui sièges sur le trône de l'univers, l'ancien des jours. Père, toi qui as tout créé, à toi revient la révérence, l'adoration, l'honneur et la gloire. Merci de faire luire sur nous ta face et de nous accorder ta grâce ce matin, Père. Nous en sommes très reconnaissants. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, Père, afin de te connaître intimement. Éclaire notre intelligence. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse te voir, Seigneur. Saisir davantage qui tu es et combien tu nous aimes. Oui, Saint-Esprit, on t'invite maintenant. Viens, Esprit de vie, de vérité. Souffle sur nous. Purifie-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Révèle-nous la pensée intime du Père. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Oui, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, amen. Dans Éphésiens 4, ce qu'on a vu à date, donc avant ça, c'est que ce qu'on va voir ce matin, c'est que le choix entre une vie égocentrique et une vie christocentrique déterminera ta participation à la vie de l'Église, qu'elle soit positive ou négative. Okay? Une vie égocentrique versus une vie christocentrique. C'est ce qu'on va voir ce matin. D'accord? L'essentiel de ce qu'on va voir. À date, ce qu'on a vu, c'est que dans Éphésiens 4, Paul a lancé un appel. Il dit, « Moi, le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle, je vous exhorte à vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Hein? » Vous vous rappelez de ça? Et comment on fait ça? Bien, il dit, « Avec toute humilité, avec les valeurs qu'on a vues tantôt, les valeurs d'amour, de patience, etc. » Puis, d'efforcer de conserver l'unité aussi du corps. Et là, il nous a donné des bases de notre unité, un seul Père, un seul Dieu, un seul Évangile, un seul baptême, etc. On a vu tout ça, les bases de notre unité. Et ensuite, Paul nous a dit que, oui, nous sommes un, mais nous ne sommes pas uniformes. L'unité n'égale pas uniformité. Donc, chacun a reçu quoi? Un don pour servir dans l'Église, pour contribuer à l'unité et à la croissance. Et on a vu que ces dons-là découlent de l'œuvre de Christ sur la croix et que le but, voilà, c'est que en exerçant ton don, en participant à l'Église, bien, on arrive tous à une unité de foi. C'est-à-dire que nous sommes établis, nous sommes affermis dans la vérité. Nous sommes fondés dans la vérité, dans les bases de notre foi commune et nous ne serons plus ballottés de côté d'autre par toutes sortes d'enseignements faussés, mais nous serons solides dans la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Pas juste connaissance intellectuelle, mais la connaissance intime, l'expérience du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à la maturité. Donc, l'état mature, l'état adulte, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus-Christ. Maintenant, je vous avais posé une question la dernière fois, à la fin, et j'étais surpris, mais je ne devrais pas être surpris parce qu'on est des auditeurs oublieux. Comment arriver à être fondé dans la foi et à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? Quel est le meilleur moyen d'être fondé dans la foi et de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? À participer activement à l'Église de Jésus-Christ. Voilà, dans l'Église, vous avez les leaders qui ont été donnés par Jésus pour vous aider à grandir et à utiliser votre don. Ils sont aussi des modèles, des exemples. On apprend par exemple, l'être humain surtout. Donc, vous avez les exemples, les modèles, vous avez les dons, vous avez la vérité, on exprime la vérité et l'amour. Tout ça est à l'intérieur de la communauté et toi, tu te retrouves où? Et tu penses que tu vas grandir à l'extérieur de la communauté? Non. Oui, tu peux grandir jusqu'à un certain point, mais tu vas stagner, tu vas plafonner. Mais le défi, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour nous tous. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est tout à coup, Paul, il commence à nous avertir de ne plus marcher de façon comme les païens. Ben, c'est quoi le rapport? C'est pourquoi qu'il dit ça tout d'un coup au verset 17 qu'on vient de lire. Il dit, « Je vous dis et je vous déclare, au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leur pensée vide de sang. » Pourquoi Paul il s'en va dans cette direction maintenant qu'il a parlé de l'Église? Pour la simple et bonne raison que le pire obstacle à l'unité et à la collaboration dans la vie de l'Église, c'est une vie égocentrique, centrée sur toi-même. Tu peux intégrer la communauté, mais tout en étant égocentrique, centré sur toi-même. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. L'obstacle premier à l'unité et à la collaboration dans l'Église, c'est l'égocentrisme. Voici ce que Paul dit. « Je vous dis, je vous déclare au nom du Seigneur. » Cette formule « au nom du Seigneur » que Paul utilise, ça veut dire « Écoutez, là, ce que je vous dis, là, ce n'est pas mon opinion. » Ça vient directement du Seigneur, OK? Ça a une autorité. C'est comme les prophètes de l'Ancien Testament, « Ainsi parle l'Éternel. » OK? C'est ce qu'il dit là. « Ainsi parle l'Éternel. Vous ne devez plus vivre comme les païens. » Bon, le mot « païen », c'est quoi? En grec, c'est « ethnos ». Est-ce que ça vous fait penser à un mot? À « ethnie ». C'est ça. Le mot « ethnos » grec, c'est de là que vient notre mot « ethnie ». Bon, c'est un mot qui fait référence au peuple, aux différentes nations, mais à l'extérieur du peuple de Dieu. Les Juifs utilisaient ce mot-là, « ethnos ». En grec, bien là, ils l'utilisaient dans la version hébraïque, mais le mot veut simplement dire « les autres nations ». Mais les autres nations ne connaissaient pas qui? Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Donc, le mot païen est venu à faire référence à les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent sans connaître Dieu. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est pas péjoratif, mais ça exprime une réalité spirituelle. Donc, il dit, vous ne devez plus vivre comme les païens qui font quoi? Qui suivent leurs pensées vides de sens ou vaines. Qui n'a pas de but. Qui n'a pas de raison vraiment d'être. Ils ont, qu'est-ce qu'il dit encore, l'intelligence obscurcie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont voilés. L'intelligence est limitée. Elle va jusqu'à un certain point, mais elle frappe un obstacle, un écran, un mur. C'est comme un aveuglement, hein? Autrement dit, un aveuglement. Obscurcie. Enténébré. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne. La vie que Dieu donne. C'est ça la vie. Sans Dieu, tu es étranger à la vie que Dieu donne. À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement du cœur. C'est-à-dire que je ne sais pas et Je ne veux pas savoir. Ça, c'est l'endurcissement. Oh, quel tableau, hein? Quel tableau que Paul peint ici. Ah, ça se peut pas. Ah non, ça se peut pas. Bien, combien de fois que je dis aux gens, si ce que vous croyez, c'était pas vrai, est-ce que vous voudriez savoir? Non. Combien de fois je me suis fait répondre ça? Est-ce que vous voudriez entendre parler de Dieu, Jésus-Christ, dans la parole? Non. Si tu meurs ce soir, est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas? Non. Est-ce que tu voudrais le savoir? Non. Ben voyons. Ben voyons. Vous savez qu'on peut être athée. Ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu du tout. Dieu n'existe pas, on est sûr de ça. Hein? Mais la position athée n'est pas tenable. Parce que pour être athée, il faut que tu aies toute la connaissance de tout l'univers pour dire qu'il n'y a pas de Dieu à nulle part. Donc, cette position-là n'est pas tenable. Donc là, les gens vont prendre la position de agnostique. On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être pas, mais je ne sais pas. Il y a des agnostiques qui sont réguliers et il y a des agnostiques qui sont récalcitrants. C'est-à-dire des agnostiques qui disent, ben je ne sais pas s'il y a un Dieu. Bon, ça c'est un agnostique régulier. Puis un agnostique récalcitrant, je ne sais pas s'il y a un Dieu, puis je ne veux pas le savoir. Ah ah! C'est une question de volonté. Donc, Paul, il parle ici, il dit à vous et à moi, Dieu nous parle ce matin, OK? On est d'accord? Vous, toi, moi, je ne dois plus vivre de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une possibilité que je vive encore de cette façon-là, même en étant chrétien, même en ayant connu le Seigneur Jésus-Christ. Il se peut. Et si tu vis comme ça, ça va faire obstacle à l'unité et à la collaboration dans l'Église. C'est pour ça que Paul en parle. Ici, Paul expose la mentalité de l'être humain qui n'a pas connu Dieu personnellement, qui n'a pas été connu de Dieu de façon intime, encore plus important. Il est seul, l'être humain, avec ses pensées. Dieu ne fait pas partie du portrait. C'est l'être humain qui est au centre. Madame me disait au bureau cette semaine, « Ah, je remercie la vie. » Ben moi, j'ai dit, « Je remercie le Créateur de la vie. » Ah, elle dit, ben moi, j'englobe tout ça. Ben, j'ai dit, en fait, non. J'ai dit, c'est la vie qui est englobée par le Créateur. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme, même si on le dit, même si une personne dit, ben oui, Dieu existe, c'est comme s'il n'existe pas. Il est seul avec ses pensées. Dieu ne fait pas partie du portrait. C'est l'être humain au centre. Autrement dit, c'est une mentalité, une philosophie de vie qui est égocentrique, centrée sur le moi. Et par la suite, Paul décrit le comportement qui découle de cette mentalité-là. Il parle de l'inconduite. Vous avez ça au verset 18, n'est-ce pas? Verset 19, pardon. « Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Mais, impureté, cupidité, toutes sortes de vices, un comportement libertin caractérisé par un laisser-aller à ses propres désirs, mais, quel tableau de l'humanité! Ce n'est pas possible, dites-vous! L'être humain n'est pas si méchant que ça! L'être humain est capable de grands actes d'altruisme! Oui, oui. La Bible démontre que l'être humain est capable de poser de bonnes actions. Regardez ce que Jésus dit dans Luc 11. Il dit, « Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, ou méchant dans une autre version, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Il y a deux choses ici que Jésus dit. Deux choses qui semblent contraires, mais qui coexistent. Tout méchant que vous êtes. Et vous savez donner de bonnes choses. Ça veut dire que l'être humain, dans son état naturel, Jésus dit, vous êtes méchant. C'est ce qui vous caractérise, c'est quoi? L'égocentrisme. Mais, tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. La Bible nous présente l'être humain comme étant capable de poser de bons gestes. Ben oui, on en a vu des actes d'altruisme à travers l'histoire de l'humanité. Mais comment comprendre ce que Jésus vient dire? Il faut d'abord retourner aux origines de l'existence humaine. La Bible déclare qu'il y a un être intelligent, tout-puissant et infiniment bon qui existe avant le temps et en dehors de l'univers physique composé de matière, d'énergie que nous habitons. Je vais faire une parenthèse. Dernièrement, j'ai lu quelque chose que mon frère Rémi m'a passé, Einstein et le Big Bang. Beaucoup de chrétiens qui ont peur du Big Bang. Vous n'allez pas avoir peur du Big Bang. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Tout ça a commencé avec Einstein dans les années 30. Un brillant mathématicien, un brillant physicien, Einstein découvre la formule de la relativité, hein? E égale mc au carré. Et avec les autres lois de la nature, les autres lois de la thermodynamique qu'on appelle, il vient à la conclusion que l'univers n'a pas toujours existé. Ben, vous allez dire, ben, c'est évident. Non, parce qu'à ce moment-là, les scientifiques croyaient que l'univers étant infini, elle a toujours existé, et donc, ce que la Bible dit, c'est poubelle. Ce que la Bible dit qu'il y a eu un créateur, on ne croit pas à ça, parce que l'univers a toujours existé. Mais là, Einstein arrive avec cette découverte mathématique, physique, et il réalise qu'il y a un début au temps, à la matière, à l'énergie, à l'espace. Oh! Et savez-vous ce qu'il a fait? Il ne voulait pas ça. Alors, il a mis un facteur X dans ses équations pour éliminer ça, là. Et là, il a publié ça. Et les autres mathématiciens ne sont pas fous non plus. Ils ont dit, Einstein, c'est quoi ce facteur X-là là, que tu as mis dans tes équations? Ça ne marche pas, là. Pourquoi tu as mis ça? Ah, il dit, je sais, ça ne marche pas, mais écoutez, c'est parce que ça ne se peut pas, là. Ça, oui, je ne voulais pas, ça ne se peut pas. Mais ils ont dit, ça ne marche pas, il faut enlever ça. Et donc, tranquillement, dans les années 30-40, la communauté scientifique a dû se rendre à l'évidence, OK, que l'univers avait bel et bien eu un début. Wow! Et on appelle ça le Big Bang. Bon. Mais ça veut dire qu'il y a un temps, un moment, il n'y avait aucune matière dans l'univers, aucune énergie, pas d'espace et pas de temps. Rien. 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 À un certain moment donné, tout est arrivé tout d'un coup. Le temps, l'espace, l'énergie, la matière. Et là, certains physiciens ont dit, « Ouais, ça commence à ressembler pas mal à la Bible, hein? Ça commence à ressembler pas mal à ce que la Bible dit, hein? » Et puis maintenant, je vous fais une petite parenthèse, maintenant, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu d'autres univers avant, des multivers, et puis ça finit par la chance à produire notre univers. Non, il n'y en a pas eu d'autres univers avant. Ça se peut pas. Il y avait zéro énergie, zéro matière, zéro temps, zéro, rien, un néant. OK? Ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose en dehors, à l'extérieur de la masse, de l'énergie, de l'espace et du temps, a produit ça. C'est ce Dieu-là de la Bible. Il est au-dessus de l'univers. Il est partout dans l'univers, mais il est au-dessus et avant. Et il a tout produit de rien. Et c'est ce Dieu-là, infiniment intelligent et bon, qui a créé à partir de rien tout l'univers et l'être humain. Le neuropsychiatre chrétien John Applegate décrit l'état initial de l'être humain comme étant en parfait alignement avec son Créateur dans tous les éléments de sa personne physique, spirituelle, émotionnelle. Il donne l'image d'un aimant, puissant aimant, là, avec un champ magnétique infiniment grand. Et mettons, on imagine l'être humain fait de toutes petites sciures de fer. OK? Vous savez, là, les petites sciures de fer, là? Imaginez, l'être humain est fabriqué de tout ça, et là, l'aimant infiniment puissant est là. Qu'est-ce qui va arriver? Tout est enligné. Toutes les petites sciures, toutes les petites sciures de fer s'enlignent avec cet aimant-là. C'est parfaitement enligné avec le Créateur. C'est ce que l'être humain a été créé pour être. Tous les atomes, dans toutes les molécules, dans toutes les cellules, de tous les organes de son être, toutes les pensées de son intellect, tous les désirs et émotions et orientations de son âme, parfaitement alignés avec son Dieu qui est au centre de sa vie, de son existence. Mais quelque chose d'horrible est survenu. Une calamité inimaginable frappa cette créature si merveilleuse. Un ennemi du Créateur vint implanter un virus dans son être, lui suggérant qu'il serait plus heureux et plus important s'il était lui-même au centre de son être. Et l'être humain s'est laissé séduire par ce mensonge meurtrier. Et la parfaite unité avec son Créateur fut fracassée en mille miettes. C'est l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire l'étude de l'être humain d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique. On explique l'être humain de cette façon-là. On le comprend de cette façon-là. Et c'est pourquoi Jésus peut dire, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez faire de bonnes choses. » Oui, parce que vous avez été créé à l'image d'un Dieu bon, et il y a quelque chose de cette image-là qui persiste encore. Un pâle reflet, une image fanée de la bonté de Dieu. Vous êtes capable de faire des bonnes choses, mais vous êtes méchant. Pourquoi? Parce que vous vous êtes détourné. Vous n'êtes plus centré autour de Dieu, vous êtes centré sur vous-même. Comment comprendre ça? Je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Moi, je connais quelques phrases en Atikamek, la langue des Atikamek. Je suis capable de dire bonjour, comment ça va? Regarde en haut, regarde en bas, ferme tes yeux, ouvre tes yeux. Bouge pas! Bouge pas! Et salut, au revoir, à la prochaine. Je suis capable de dire ça, OK? Je suis capable de dire quelques phrases. Est-ce que je parle atikamekw? Non! Si quelqu'un veut essayer de converser avec moi, bonne chance. Voyez-vous, je ne suis pas capable de parler la langue atikamekw, mais je suis capable de dire quelques phrases. C'est un peu comme ça. Jésus dit, vous n'êtes pas connecté avec Dieu, mais vous êtes capable de dire quelques phrases. Hein? Vous êtes capable de poser quelques gestes. Mais voyons, quel portrait laid tu peins là, Brian. Non, je refuse de croire qu'on est méchant comme ça. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois? Ce n'est pas moi qui est comme ça. Moi, je suis différent. Ben écoutez, ce n'est pas moi qui peins ce portrait-là, c'est Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais lorsqu'ils entendent ce que Jésus dit, non, 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 ça ne se peut pas. Comment tu peux dire que tu crois en Jésus et tu ne crois pas ce qu'il dit? Laisse-moi te poser une question. Quel amour est généralement considéré comme le plus grand sur Terre, le plus grand de notre existence commune, là? Pensez à une fête durant l'année, là, on fête ça, là. Le plus grand amour, ce serait quoi, là? C'est la fête des... la fête des mères, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas l'amour d'une mère qui est considéré comme l'exemple le plus haut, le plus important de l'amour de notre existence. Qui dit mieux? L'amour d'un père, peut-être, dans certaines circonstances, mais généralement. On accepte que l'amour d'une mère, hein, c'est quelque chose. Et oui, cet amour-là reflète la personne de Dieu. Mais la bonté parfaite, l'amour parfait, dicterait qu'une mère se sacrifie toujours pour cet enfant qu'elle aime. Non, là, ça serait l'amour parfait, non? Oui, l'amour sacrificiel d'une mère pour son enfant ou d'un père pour son enfant. OK? Ça, c'est l'exemple pour nous, là, le plus élevé de l'amour, de la bonté humaine, si on peut dire. OK? Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, maintenant, je vous ramène 4000 ans en arrière. La scène, c'est un vieillard barbu, vieux de 120 ans, dans une plaine remplie d'une foule immense. Et ce barbu vieux de 120 ans, mais au regard encore très vif et pénétrant, est en train d'instruire son peuple qui l'a conduit pendant 40 ans à travers un affreux désert rempli de dangers et de difficultés. Vous l'aurez deviné, c'est Moïse. Et Moïse qui redonne à la nouvelle génération de son peuple, parce que l'autre génération est complètement périe dans le désert, les principes et les valeurs, les instructions de Dieu pour eux. C'est pour ça qu'on appelle ça, ce livre-là, Deutéronome, deux fois nom, ça veut dire deuxième loi. Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. Il donne la loi une deuxième fois. Le livre de Deutéronome, c'est ça. OK? Quand vous lisez la Bible, vous dites, mais il me semble que j'ai déjà lu ça. Pourquoi ils reviennent avec ça, les 10 commandements encore? Ben, c'est parce que c'était une nouvelle génération. Donc, Moïse est là, devant cette génération-là, et il leur explique ce que Dieu est pour eux et ce que Dieu s'attend d'eux. Et les malédictions qui les guettent s'ils choisissent de se rebeller contre ce Dieu si bon et merveilleux. Voici qu'au milieu de toutes ces malédictions, on lit ceci. On a vu ça, pardon. Il dit, si vous vous révoltez contre Dieu, il va vous arriver des malédictions, et en voici une. Le Père, l'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous, regardera avec malveillance son frère et sa femme, qu'il aura serré contre son cœur, avec malveillance. Pourquoi? Et les enfants qui lui resteront encore, il va les regarder avec malveillance. Pourquoi? De peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes. Et il continue. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol. Quelle image, hein? Quelle image. Je veux dire, il en met épais, là. Il en beurre épais, Moïse, là. Il dit, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils, sa fille, car Elle voudra manger toute seule en cachette. Ouf. Le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous aurez réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moïse? Il dit, si vous vous révoltez contre Dieu, là, Dieu va se retirer. Il va dire, OK, vous voulez pas de moi, allez-y, j'arrête de vous protéger. Et là, vous allez voir qu'est-ce que les ennemis vont faire avec vous. Et ils vont vous assiéger, ils vont assiéger vos villes. C'est pas moi qui fais ça, là. Je fais juste arrêter de l'empêcher, Dieu. Je me retire. Et en assiégeant les villes où vous demeurez, là, vous allez être tellement, tellement, tellement dans la détresse, là, que c'est ça qui va arriver. Ouf! Où est-il? Où est-elle? La bonté absolue de l'être humain, l'amour sacrificiel d'une mère pour son enfant. Ça s'est évaporé. Ah, mais là, Brian, c'est un cas extrême, là. C'est un cas de survie. C'est un exemple farfelu. Non, mes amis, c'est la réalité de la nature humaine. Dans les bonnes circonstances, l'être humain peut user de bonté. Mais enlever les contraintes extérieures, enlever les motivations secondaires, par là, je veux dire être vu comme une bonne personne, se voir comme une bonne personne, recevoir les accolades, recevoir en retour, etc. Enlever ces motivations secondaires-là, enlever les contraintes extérieures, mettez-lui de la pression, placez-lui dans une situation critique pour sa vie et quel sera le choix naturel de son caractère? Moi. Moi. Ouh! Le naturel sortira. L'être humain est foncièrement centré sur lui-même. L'égocentrisme qui vit, qui gît toujours dans son cœur, remonte à la surface. Ah, mais Brian, c'est un cas extrême, là. Soit. Mais soyons honnêtes. Est-ce qu'on a besoin de placer dans de telles circonstances extrêmes un homme pour qu'il oublie son enfant au profit de ses propres désirs et besoins? Est-ce qu'on a besoin de placer une femme dans de telles circonstances extrêmes pour qu'elle oublie son enfant au profit de ses propres désirs et ambitions? Non. Chacun de nous, ou à peu près, je pense, ont souffert à différents degrés de l'égocentrisme de quelqu'un dans notre famille. Soit un père, soit une mère, soit un frère, une sœur, un mononcle, une matante. Chacun de nous, à peu près, sans exception, a été blessé par cet égocentrisme. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul à avoir souffert l'égocentrisme et pourtant, on n'était pas dans des circonstances extrêmes qu'on voit ici. Revenons dans notre texte, Éphésiens 4. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est que Paul dit, il ne faut plus vivre comme quelqu'un qui n'a pas connu Dieu et qui est donc centré sur lui-même et qui n'a pas de vraiment de compas. Qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas été connu de Dieu, qui n'a pas reçu la vie de Christ en lui ou en elle. Il ne faut plus vivre comme ça. Le problème, c'est qu'on peut retourner à vivre comme ça. C'est toujours possible parce que notre nature humaine demeure après qu'on ait rencontré Jésus. On reste avec cette nature déchue-là. L'être humain laissé à lui-même va agir de cette façon-là, égocentrique. Alors, tu as le choix ce matin de vivre de façon égocentrique ou christocentrique. Ici, j'aimerais vous faire part d'un extrait du volume « Nos relations, des bénédictions compliquées » de Tim Lane et Paul Tripp. Ils disent « Quand nous rejetons Dieu, nous créons un vide qui doit à tout prix être rempli. Or, le péché nous amène instinctivement à le remplir de notre propre personne. L'égocentrisme du péché fera inévitablement entrave à l'objectif de Dieu, puisque chacun est aux prises avec le même problème. » Quand nous rejetons Dieu, ben moi je dirais plutôt, puisque l'être humain a rejeté Dieu il y a au tout début de son existence, cette nature-là, la Bible nous dit que cette nature-là est transmise de génération en génération et qu'on vient tous au monde avec cette même nature-là. C'est quoi cette nature-là? Dieu n'est plus au centre, c'est moi qui est au centre. OK? Et je ne veux même pas de Dieu. Je ne veux même pas que Dieu vienne me ravir ma place au centre. Et donc, c'est ça qu'il dit. L'égocentrisme du péché fera inévitablement entrave à l'objectif de Dieu. Chacun est aux prises avec le même problème. Et dans ce livre, ils décrivent 6 aspects de l'égocentrisme. L'égocentrisme, le désir d'être le centre de l'attention, de l'approbation, recherche la maîtrise et l'indépendance, craint le rejet, ne pas être reconnu ou appuyé, les autres se sentent diminués ou étouffés. L'égocentrisme. Et il y a des caractéristiques à l'égocentrisme, ça commence tout ou à peu près avec auto, hein? Autonomie ou autogestion, cherche à avoir raison, à décider, à dominer, à faire arriver notre propre volonté, recherche le contrôle, l'autorité, craint être contrôlé. Les autres se sentent contraints, manipulés. Une autre caractéristique de l'égocentrisme, l'autosuffisance, le désir d'être indépendant, d'être capable tout seul, craint la dépendance, d'être dans le besoin. Les autres se sentent ignorés ou sous-estimés. Je suis capable tout seul. Ça fait partie de l'égocentrisme. Je n'ai pas besoin de toi. Et je suis capable de me gérer tout seul. Viens pas me dire quoi faire. La prétention ou l'auto-justification a soi-même comme standard, se voit comme juste en lui-même, image élevée de sa propre justice, recherche avoir raison sur le plan moral, bien paraître, craint avoir tort ou être trouvé en défaut ou coupable, mais les autres se sentent jugés, réprouvés et rejetés. Quand on est égocentrique, là, pas besoin de faire d'efforts pour blesser les autres, tu vas en blesser. Tu vas blesser les autres. Et si tu penses que tu n'as pas blessé personne dans ta vie, ben, je te mets au défi de commencer à en parler, à poser la question. Pense que tu peux avoir de grandes surprises. Ah ouais, je suis comme ça. Ah ouais, je t'ai fait ça, je t'ai fait ressentir ça. Ah ouais. J'ai jamais voulu faire ça. Ok, c'est beau, ben d'accord, là. Non, c'est pas parce que tu n'as pas voulu faire ça que tu ne l'as pas fait, là. C'est pas en disant, je voulais pas faire ça, que là, ça t'excuse. On s'imagine qu'en disant, j'ai pas fait exprès, là, regarde, que ça va être correct, là. Ça va être correct. L'autre personne, elle devrait comprendre, là, que j'ai pas fait exprès. Non. L'autre personne, elle a vraiment souffert de ce que tu as fait. Même si c'est inconscient, là. Tu vas-tu accepter la responsabilité? Tu vas-tu être assez humble pour dire, je te demande pardon? Ça, c'est l'autre pas qu'il faut faire Pas juste dire, ah, ben là, ben, sois bien que je voulais pas te faire ça, j'avais pas l'intention de te blesser. Non, non, ça marche pas, là. Tu as fait du mal, même si tu n'en étais pas conscient. Et c'est ça l'aveuglement. Paul l'a dit tantôt, l'intelligence obscurcie. On est aveugle, les amis. On est capable de voir le péché, c'est l'autre. Mais sur nous-mêmes, là, hein? Tu me vois de même. Ouais, puis c'est pas juste moi qui te vois de même. Ah, mais là, hey, ah non, je suis pas de même, moi. Ah non? Comment ça se fait que tout le monde te voit de même, puis toi, tu le vois pas? Parce que tu es aveugle. La Bible dit qu'on est aveugle. OK? Tu es aveugle. Tu ne te vois pas aller. Moi, je ne me vois pas aller. Quelles sont les autres caractéristiques de l'égocentrisme encore? L'autosatisfaction. Je cherche à satisfaire mes désirs en dehors de Dieu. Il y a plusieurs raisons à ces choses-là. Il y a des choses qui vont nous caractériser plus que d'autres, etc. Moi, ce que j'ai vu souvent dans mon propre cas et chez d'autres, là, c'est que à cause des blessures que j'ai vécues, j'en suis venu à la conclusion, personne ne va se préoccuper de moi, personne ne va prendre soin de moi. OK, mensonge. Blessure conduit à un mensonge. Donc, je me fais une nouvelle vérité. Je dois m'occuper de moi-même. Et comment on voit ça? Ben, par les actions, par le comportement. Et souvent, tu n'es même pas au courant que tu as ça dans ta tête, que tu as ça dans ton cœur, que je dois m'occuper de moi-même. Personne ne va s'occuper de moi, fait que moi, je dois m'occuper de moi-même. C'est ça l'autosatisfaction. Je cherche à satisfaire mes désirs, en dehors de Dieu, par toutes sortes de moyens. Je recherche mon propre plaisir, mais je demeure insatisfait, exigeant. Je crains que les autres viennent faire obstacle à mon plaisir personnel. Les autres se sentent comme des objets. Là, je vais vous faire une confidence. Le jour, il y a plusieurs années, que ma femme m'a dit, je me sens comme un objet dans notre relation intime. Ouf. Je me sens comme un objet. Mais non, mais non, mais... Ça se peut pas. Oui, ça se peut. Comment ça se peut? Un homme faire sentir à sa femme qu'elle est un objet parce qu'il s'intéresse plus à l'acte et tout ce qui entoure l'acte qu'à sa personne. Hein, mesdames? Plusieurs mesdames qui semblent être d'accord avec moi. Les messieurs, vous parlez pas. Ouf! Je suis content de vous dire que ce n'est plus le cas. Merci Seigneur. Ouais. Mais voyez-vous, je n'avais pas l'intention de me faire sentir de même. Je l'ai blessé, pourquoi? Parce que j'étais égocentrique. J'étais dans la satisfaction de mes propres désirs, mes propres plaisirs. Un autre, l'autodidacte. L'autodidacte a soi-même comme référence, comme autorité. Il est sa propre source de vérité et de sagesse. Il recherche à promouvoir son opinion. Il résiste à être enseigné, ne tolère pas avoir tort, craint qu'on lui dicte quoi penser, dire, faire, rejette l'autorité. Mais les autres se sentent inférieurs, pas respecté, traité avec condescendance. Es-tu un autodidacte? Autodidacte. Ta propre autorité. C'est ce qui arrive. Lorsque Dieu n'est pas au centre, nous devenons, dans le vide que ça crée, nous devenons l'autorité. OK? Et comme j'ai dit, certaines de ces choses-là sont plus fortes que d'autres chez certaines, là, mais il y a un petit peu de chacun de ces choses-là en nous. Parce que Dieu, on a été créé pour être en lien avec Dieu, là, et Dieu est l'autorité, mais là, Dieu, on s'est détourné, on a mis notre propre moi au centre, et qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, je deviens mon autorité. Moi, je décide. Et on le voit à l'extrême, lorsque juste comme tantôt, lorsqu'on a dit, voici ce que Jésus dit, et là tu dis, non, ça ne se peut pas. Ah, OK, ça veut dire que toi, tu as décidé que ce que toi, tu crois, c'est vrai, et ce que Dieu dit, ce n'est pas vrai. Donc, qui est l'autorité? C'est toi. C'est toi l'autorité. Tu es ta propre autorité. Et quand ça pousse à l'extrême, bien, on voit ce que ça produit comme résultat. Voyez-vous pourquoi Paul adresse cet élément-là? La manière de vivre des païens, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire une manière de vivre qui ne tient pas compte de Dieu, qui est centrée sur le moi, égocentrique. Et c'est dans ce livre-là, nos relations, mais j'en rajouterai un autre, moi. L'autoprotection cherche la sécurité avant tout, ne fait pas confiance aux autres qui sont vus comme potentiellement dangereux, se retire des relations, évite toute situation d'intimité, de révélation de soi. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Craint l'humiliation, la honte, la douleur, du mépris. Mais, c'est-à-dire, OK, mais c'est normal. La personne a été blessée, OK, oui, mais ça a quand même des effets. Quand Dieu n'est plus ta protection, parce que la Bible nous dit, il est notre soleil et notre bouclier. Combien de fois dans la Bible? Dieu nous dit, moi, je vous entoure. Si vous êtes mes enfants, je suis votre bouclier. Je vous protège sous mes ailes. Vous êtes à l'abri du rocher, etc. David dit, mon Dieu, ma forteresse, mon refuge, mon haut lieu de... Tu sais, mais là, Dieu n'est plus là pour te protéger. Fait quoi? C'est quoi? Tu dois te protéger toi-même. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu repousses les autres. On a déjà vu, hein? On se construit une forteresse pour se protéger, mais la forteresse devient une prison. Une prison. Et les autres se sentent exclus. Pas important, jugés. Maintenant, regarde-moi dans les yeux, là. Dis-moi, honnêtement, si tu es capable, que tu ne te vois dans aucune de ces descriptions-là. Mais sais-tu quoi? Ça ne surprendrait même pas si tu es capable de dire « Non, je ne me vois pas. » Pourquoi? Parce que Paul dit « T'es aveugle. T'es aveugle. » Pauvre humanité. Pauvre humanité. On a le cœur endurci. On ne se voit pas aller. La Bible nous dit que nous sommes aveugles spirituellement. Cet aveuglement nous empêche non seulement de voir Dieu et ses œuvres, pourtant évidentes, mais de se voir nous-mêmes. Serais-tu d'accord pour demander à ton époux, ton épouse, tes enfants, tes amis proches, s'ils te voient dans une ou dans plusieurs catégories? Serais-tu d'accord de le faire? Mon épouse a été très patiente avec moi à travers les 37, bientôt 38 ans de notre mariage. Elle a subi les contre-coups de mon autosuffisance, de mon autodidactisme. Un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, parmi des centaines probablement, c'est qu'à chaque fois qu'elle disait quelque chose en espagnol ou dans une autre langue, je la corrigeais. Ben, moi, je pensais que je faisais bien. Hein, Richard? T'es d'accord avec moi? Okay, ça, c'est pas enregistré, hein? Mais qu'est-ce que ça faisait chez elle? Ça dit, non, tu me fais sentir comme rien, là, que je sentais diminué, pas respecté, traité avec condescendance. C'est pour ça qu'on a tant besoin les uns des autres. La vie dans la famille de Dieu nous éclaire sur notre vraie nature, nos vrais enjeux et notre égocentrisme. Quel portrait sombre de nos natures, n'est-ce pas? Mais c'est la nature de l'être humain laissée à lui-même, à l'état naturel. La Bible parle « charnel ». Quand vous entendez ou lisez ce mot-là, dans une version Louis II, par exemple, l'homme charnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'être humain au naturel, l'être humain laissé à lui-même, l'être humain sans Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, parce que Paul nous dit au verset 20, « Mais vous qui faites partie, n'oubliez pas, de la famille de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. » Ou dans la version Sommer, « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va l'expliquer au verset 21. Puisque vous avez compris ce qu'il est, OK? Vous avez compris ce qu'il est. Qui est le Christ? Qui est Jésus? C'est Dieu devenu homme. C'est le retour à la perfection. Parce que il n'y avait plus personne parmi nous qui avait vraiment Dieu au centre. Mais Jésus, c'est Dieu incarné. C'est Dieu en chair et en os. C'est ce qu'il est. Et vous avez compris ce qu'il est. C'est ça. Mais il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? On vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. La vérité qui est en Jésus, c'est la vérité de l'Évangile, que Jésus, parce que nous étions perdus, parce que nous avions cru aux mensonges trompeurs et meurtriers de l'ennemi, Jésus devait venir pour sauver. Parce que nos désirs, comme on a vu tantôt, nous menaient encore très loin de Dieu. Verset 22. Regardez ce qu'il dit. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, OK? Celle de l'homme que vous étiez autrefois, on a parlé, que les désirs trompeurs mènent à la ruine. C'est quoi l'enjeu d'être dans l'égocentrisme? C'est quoi l'enjeu de vivre une vie centrée sur le soi? C'est que ça te mène loin de Dieu et ça te conduit à la ruine. La Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas. » Ne périssent pas. Ça veut dire que l'être humain, dans son état naturel, est séparé d'avec Dieu. Et qu'il s'en va vers la ruine. Jésus a parlé d'un jugement après la mort. Et les gens pensent qu'ils vont mettre leurs bonnes œuvres dans un côté de la balance, puis Dieu va mettre les mauvaises choses dans l'autre, puis il va décider que c'est complètement foutaise. C'est pas dans la Bible, ça. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous sous, déjà, la condamnation de Dieu. Déjà, des fois, je demande aux gens, bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Ah, ben là, il faut être vraiment, vraiment méchant, là. Parce que les autres, je pense qu'on s'en va tous en même place, là. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit le contraire. La Bible dit que nous tous, nous sommes égarés de Dieu, nous sommes tous coupables, et que nous sommes tous déjà condamnés sous le jugement de Dieu, et que seuls ceux qui croient en Jésus-Christ ont la possibilité d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus est venu faire quoi? Prendre ton jugement sur lui. Accepter de mourir pour toi et de te donner sa vie en échange pour ta mort. Mais il faut prendre ce pas-là. Ce n'est pas automatique. Et si ce matin, tu entends Jésus qui t'appelle à prendre ce pas, n'endurcis pas ton cœur. Moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une église évangélique et tous les dimanches soirs, c'était la réunion de l'Évangile. Ils prêchaient l'Évangile, peu importe ce qu'il y avait des nouveaux, des vieux, pas de vieux, pas de nouveaux. Ils prêchaient l'Évangile. Moi, j'ai entendu l'Évangile des centaines de fois. Et je savais que c'était vrai. Je savais que c'était vrai. Mais je résistais toujours. Combien d'années j'ai résisté? Bien, de l'âge le plus jeune que je peux comprendre, là, 5 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Je savais ce que j'entendais de l'Évangile était vrai, mais je résistais. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas céder ma vie à Christ. Je ne voulais pas donner toute ma vie à Dieu. C'est à ça que Dieu t'appelle ce matin. Si tu n'as pas Christ au centre de ta vie, tu n'es pas son enfant. Même si tu vas à l'église, même si tu as été baptisé, même si tu as fait la première communion, même si tu as fait plein de bonnes choses, si tu n'as pas reconnu que tu étais perdu à cause de ton état devant Dieu et que tu t'es tourné vers Jésus pour avoir la vie, mes amis, il n'y en a pas d'autre issue. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Dieu a tout fait en envoyant Jésus. Il ne peut pas faire plus que ça. Jésus a dit, « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Et c'est pour ça. C'est pour ça. Mais Paul, il dit, « Vous qui avez compris ça, vous qui avez accepté qu'il est ce qu'il dit qu'il était, ben vous avez aussi compris qu'est-ce qui est conforme à la vérité. Qu'est-ce qui est conforme à la vérité, c'est que on se débarrasse de notre ancienne manière de vivre, de celle de l'homme que vous étiez autrefois, l'homme égocentrique et les désirs trompeurs qui mènent à la ruine, et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. L'orientation de la pensée. L'orientation de la pensée. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui préoccupe ton esprit le lundi, le mardi, le mercredi, le matin, l'après-midi? Qu'est-ce qui préoccupe ta pensée? Qu'est-ce qui oriente ta pensée? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu est cet aimant puissant là, vers qui tout est orienté dans ton être, corps, âme, esprit? Est-ce que tu vis de cette façon-là? Et à revêtir l'homme nouveau, c'est Christ. Revêtir, c'est actif, ça n'arrive pas automatiquement. Comme on a vu avec l'humilité, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'humilité, on a dit, ce n'est pas passif, ça, c'est pas juste le manque de l'orgueil. Il faut se revêtir, Paul dit. Revêtir, faites quelque chose pour que l'humilité fasse partie de vous. Ici, c'est la même chose. L'expression se revêtir, Paul, il l'utilise beaucoup. Se revêtir comme un habit de l'homme nouveau. créé conformément à la pensée de Dieu. Fait que quand tu acceptes Jésus-Christ, autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux finir avec ça. Quand on vient à Jésus, quand on vient à Dieu, puis on dit, OK, Seigneur, j'arrête, je reconnais, j'avoue que j'ai mené ma vie en rébellion contre toi, selon mes propres pensées, avec moi au centre, et j'ai fait des choses contre toi qui t'ont offensé, j'ai blessé d'autres personnes, je reconnais que je suis pécheur, je suis digne de ton jugement, et j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Si tu fais ça, la Bible dit que Dieu crée une nouvelle personne en toi qui est de nouveau centrée sur lui. Que maintenant, c'est possible d'être encore centré sur lui. Wow! Reconnecté avec la source de vie, de bonté, d'amour qui est Dieu, là, c'est magnifique. Tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature, créée conformément à la pensée de Dieu, conformément en rapport avec Dieu, pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. C'est possible en Jésus. Amen! L'exemple du Christ, quel est l'exemple parfait d'une vie Dieu-centrique? C'est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À peine accepteront de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien ou pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous, pour moi. Tu sais, l'exemple que j'ai donné au début que Moïse a cité, là, l'homme qui ne voulait pas partager l'enfant qui mangeait avec ses fils, ses filles et sa femme, la femme, même chose, c'est l'homme naturel, c'est l'être humain naturel. On a beau élever la bonté humaine a ses limites et on n'a pas besoin de mettre beaucoup de pression sur l'être humain pour que ça ressorte. Mais Christ, lui, il a donné sa vie. Lui, il a donné sa vie. Lui, il s'est sacrifié. Et même pas pour des gens proches. La Bible dit, lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Accepterais-tu de mourir vraiment pour un enfant? Accepterais-tu vraiment de mourir pour ton plus proche ami? Accepterais-tu maintenant de mourir vraiment pour la personne que, dans ton entourage là, que tu détestes ou que tu aimes le moins? Sincèrement, c'est ce que Jésus a fait pour toi. L'as-tu accepté comme ton sauveur, ton Seigneur? Sinon, qu'est-ce qui t'empêche? Tu te penses juste en toi-même? Tu penses que tu as raison? Tu penses que tu es une bonne personne? Oui, tu peux être une bonne personne selon tes critères ou selon les miennes. Mais ce ne sont pas là les critères qui comptent. Ce sont celles de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Christ soit mort pour toi, Paul, il t'appelle, Paul, il m'appelle. On a un choix à faire. On a un choix à faire. Une vie égocentrique ou une vie christocentrique. Si on vit une vie égocentrique, ben on ne pourra pas participer activement à la vie d'Église, même si on en fait partie. Ça va contrecarrer. Avec la vie christocentrique, on va participer à la croissance de nos frères et sœurs et à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été créés. Et qu'on va retrouver le vrai épanouissement. Prions. Alors, merci Seigneur pour ta belle parole, ta bonne parole ce matin. Elle est tellement lucide, Seigneur. Elle est tellement claire, tranchante, mais combien bienfaisante aussi. Merci, Père, de nous avoir conduits par ton esprit ce matin. Parle à mon cœur. Parle à nos cœurs. Qu'on puisse nous débarrasser de cette ancienne vie et revivre en fonction de notre nouvelle identité. Pour ta gloire, Père. Amen. J'invite Richard à venir.